Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui chez Filigrane. Une annonce pour vous signaler que la rencontre littéraire du jour débute à l'instant à l'Espace Bar. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour rencontrer, écouter notre invité du jour, à savoir Pascal Fontenot, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, non pas pour un nouveau livre, mais deux nouveaux livres. Un paru chez Aden sous le titre de Has-Been, l'autre chez Actes Sud, propriété privée. Pascal Fontenot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je dirais qu'avec vous, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. C'est le quotidien des gens qui orchestrent votre écriture, que ça soit dans un lotissement des fleurs ou tout près d'un supermarché qui a fermé.
J'ai fait une rencontre à propos de l'ensemble de mes livres, parce que ça, c'est les deux derniers, effectivement, mais j'en ai écrit 15 maintenant. Donc, on faisait un peu retracer les différentes histoires que j'ai racontées. Et en fait, au bout du bout, je m'aperçois que je raconte souvent les mêmes histoires. Donc, et la différence par rapport à la première histoire se déroulait dans un ensemble de tours, des immeubles HLM, et là le dernier c'est une zone pavillonnaire, donc je trouve qu'il y a quand même une ascension sociale importante, mais sinon c'est effectivement toujours le même genre d'histoire.
C'est pour ça que vous dites il faut peu de choses pour écrire un roman, le tout est dans les façons de raconter les choses.
Bon, ça c'est un des personnages qui dit ça, mais je pense sincèrement que ça traduit ma pensée. Effectivement, on pense parfois qu'il faut avoir vécu des choses extraordinaires, des aventures, des gens partent traverser le désert à pied avec l'espoir d'en revenir avec des histoires. Moi, je regarde par la fenêtre et ça me suffit pour trouver de quoi raconter des histoires.
Alors, raconter des histoires avec vous, c'est avec légèreté et gravité, finalement, comme des toiles d'araignée qui entremêlent les petits riens, justement, de tous les jours, mais avec des grandes conséquences.
Je raconte des histoires, je nous raconte, en fait. Donc, c'est des histoires de nous. Donc, ce n'est pas des gens formidables qui vivent des aventures extraordinaires ou qui ont des fonctions extraordinaires. Donc, ce n'est pas les coulisses de l'État, ce n'est pas les coulisses de la police, ce n'est pas non plus le milieu des agents secrets. C'est des gens comme vous et moi à qui il arrive quand même des choses extraordinaires. Puisque, bon, le but, c'est. Je ne fais pas de la sociologie ni du journalisme non plus. Je raconte des histoires. Donc, à tous ces gens, il arrive des choses formidables ou pas. Et comment on réagit face aux événements, en fait. Et c'est ce genre d'histoire-là qui m'intéresse, parce que je crois que les héros contemporains sont moins ceux qu'on voit à la télé et qu'on met en avant à l'occasion d'un sauvetage quelconque. C'est nous, en fait. C'est comment on arrive à résister à ces agressions constantes, multiples, et aussi aux... On appelle ça le destin, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais aux cailloux qu'on rencontre tous dans une vie. Alors, c'est un licenciement, c'est le départ d'une femme, c'est mille choses. C'est des enfants qu'on trouve dans son couloir. Et comment on réagit par rapport à ça?
Finalement, vous préférez les anonymes, justement, aux héros qui vont aller sauver la veuve et l'orphelin. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une résonance commune à tous vos personnages qui passent par la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?»
Oui, mais à la différence, parce que, bon, évidemment, quand on... Parfois, on présente ce genre de héros-là, on se dit, oui, bon, c'est des médiocres à qui il n'arrive pas grand-chose, et donc pourquoi écrire ce genre d'histoire-là? Je trouve que, néanmoins, ce sont chaque fois des histoires de résistance. Parce que tous auraient pu facilement se décourager, s'asseoir devant la télé et ne rien faire. Et pourtant, bon, comme c'est mis dans propriété privée, et pourtant... Ils sont sortis de chez eux, ils ont fait quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font quelque chose, et même des gens qui font des choses qui sont au-delà de ce qu'ils auraient dû faire, qui ont des illusions. C'est bien d'avoir des illusions, on se rapproche de l'utopie. Donc, c'est bien de rêver sa vie. Et ça, c'est chaque fois des individus qui ont rêvé leur vie.
Mais on s'ennuie beaucoup aussi, vos personnages, dans les deux livres, parce qu'à un moment donné, bien, la fermeture d'un supermarché qui fait les gros titres de la presse, comme s'il n'y avait pas autre chose à mettre en avant, même si c'est très important. Il y a des réunions municipales qui se vivent comme des conférences internationales. Là, on est dans le côté de Has-Been. turbines dans propriété privée aussi, il y a ces êtres qui s'ennuient dans leur propriété, dans leur lotissement, qui sont soit sans boulot, qui sont soit à la retraite, jeunes ou vieux, ils s'emmerdent justement, ils doivent se réapproprier leur vie.
Je crois que sincèrement que l'ennui est un travail à plein temps. Il faut vraiment s'y préparer. Donc on croit que dans notre vie, on va d'abord suivre des études, rencontrer quelqu'un, trouver du boulot. Enfin, on a comme ça un certain nombre de garde-fous, donc de choses auxquelles se raccrocher. Et puis, il arrive très souvent que parfois même très tôt, on se retrouve plus aucun garde-fou, pas de boulot, la femme partie, les amours disparus, les enfants ont quitté la maison. Et donc à ce moment-là, chaque individu se doit de construire sa vie et ses propres garde-fous. Et donc c'est ce genre de mésaventures qui leur arrivent. Donc ils se retrouvent, ils n'ont plus de code du tout, plus de code de pensée, plus de code d'action, donc ils se retrouvent vraiment livrés à eux-mêmes, et c'est là qu'on voit si l'éducation a été bien faite ou pas, s'ils prennent la bonne réaction ou pas, et donc et ça fait des histoires en fait. Et je crois que nos sociétés aujourd'hui préparent plus à l'action, donc il faut faire des choses, travailler, aller au piano, aller faire du sport une fois par semaine, manger biotique, trier ses poumons et tout. Mais on n'est pas préparé au rien, au vide.
Mais faut-il également se prendre en main et mettre un pied devant l'autre, Pascal Fontenot, c'est ça aussi, face au vide et à l'ennui?
La moralité, c'est ça. Je pense que malgré ce qu'on dit de tout, de nous, on est tout seul. On est tout seul. Chaque matin, on se réveille et on est tout seul. Vous pouvez vivre dans une famille nombreuse, avoir 18 enfants, 2 maris, 3 amants. Vous êtes quand même tout seul. C'est-à-dire, le jour, quand vous devez prendre une décision de savoir si vous prenez du café ou du thé, si vous allez dans cette direction-là ou pas, si vous vous rendez à votre travail ou si vous allez plutôt au cinéma, vous êtes tout seul. Donc souvent on dit oui mais non, je voudrais bien, j'aimerais bien laisser tomber mon boulot mais je peux pas pour telle et telle raison. Ça aussi c'est un paravent qu'on se met. Quand ces raisons-là disparaissent, alors on est tout seul à prendre. Et ça, ce sont des histoires où les gens se retrouvent tout seuls et réagissent, résistent.
Et vous prendre en main, c'est justement écrire.
Oui, alors je ne sais pas si c'est... alors c'est difficile de savoir qui de la poule a fait l'œuf, mais pour moi c'est ça. Oui, mais franchement c'est ça. Donc je me dis, ma vie s'est construite autour de ça. Donc je me lève le matin, je fais un certain nombre de choses, et puis mon objectif c'est de gagner du temps, surtout les courses et toutes les obligations, pour me retrouver dans mon bureau et écrire. Ouais,
Alors écrire par exemple Has Been, qui paraît aujourd'hui chez Aden, mais quel lien y a-t-il justement entre les ruines d'un supermarché et les ruines d'un homme qui a été tué pendant la première guerre, la guerre 14-18?
Mais à nouveau, c'est des histoires de résistance. Donc d'un côté, on a les gens qui ont été licenciés d'un supermarché, et ça a été écrit avant la fermeture de Carrefour, en tout cas les menaces de fermeture de Carrefour. Et c'est des gens qui, en dépit, on leur a tout pris, leur boulot, le pognon et tout, et la seule chose qu'on ne peut pas leur prendre, c'est le souvenir qu'ils ont ensemble, des liens qu'ils ont tissés ensemble. Donc ils continuent à se retrouver chaque semaine pour entretenir cette mémoire-là, cette mémoire du tissu social indispensable à la vie, et donc pour eux, c'est ça. Et parallèlement à ça, il y a aussi d'anciens militaires, et eux aussi vivent du souvenir. D'une part, du souvenir des gloires passées, des grands défilés, des applaudissements, des entrées triomphales dans des villes conquises, et donc ils aimeraient bien en avoir un peu une petite raouette avant d'aller mourir tranquillement. Et donc ils trouvent miraculeusement, et c'est vraiment miraculeux, ils trouvent en fait les restes d'un individu mort en 14-18. Et là alors c'est la mémoire collective qui intervient. Donc effectivement de nos jours on tend encore à rendre hommage collectivement aux héros de la guerre 14. Et donc ils se servent de cette mémoire collective pour espérer avoir leur dernier jour de gloire. Et donc le lien entre les deux, c'est que le descendant de ce pauvre soldat mort en 1916 est un ancien du supermarché, et la crainte alors des anciens du supermarché, c'est de se dire que tout cet éclairage, toute cette agitation politique risque de faire en sorte que le supermarché pourrait réouvrir. Et ça, pour eux, ils sont conscients que, compte tenu des nouvelles normes de travail et de pression et tout ça, ils résisteraient pas. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de maintenir intacte une réalité qui n'existe plus. Mais pas se relancer dans la vie active, ça, non.
Alors, dans la propriété privée, dans le lotissement des fleurs, c'est la dérive sécuritaire que vous épinglez à travers les personnages qui apparaissent un peu parano, même un peu beaucoup.
Ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, on entend parler, effectivement, dans différents quartiers qui ont été souvent cambriolés ou visités par des malfaiteurs, cette envie qu'ont les habitants de se réunir pour surveiller leur quartier. Et moi, ce qui m'intéresse après, c'est de savoir, mais alors, qui fait ça? Qui va se décider à monter dans une voiture pour aller surveiller les biens de son voisin? Et en même temps, est-ce qu'il va aussi surveiller son voisin? Et donc, voilà, chaque fois qu'on parle d'un phénomène social, alors j'aime bien l'identifier ou l'incarner avec des personnages mis dans cette situation-là. Mmh. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à finalement ne pas regarder la télé le soir, mais monter dans une voiture avec un voisin qu'il connaît peut-être pas beaucoup pour aller patrouiller et dans son quartier? Et le jour où il trouve un voleur, qu'est-ce qu'il en fait, quoi? Il n'est pas formé, en fait. Donc c'est tous ces gens qui disent parfois, qui crient à mort, quand il y a un grand procès. Et si on leur donne une arme, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Est-ce qu'ils tirent vraiment sur le gars qu'on emmène, et donc qui a attiré sur lui l'opprobre général, à juste titre, souvent? Et donc voilà, moi, c'est ça, c'est... Il y a la réalité du monde et il y a la réalité à notre échelle. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment la réalité du monde est digérée à notre échelle.
On a l'impression justement que vous faites des zooms avant, des zooms arrière justement par rapport à ces personnages qui nous ressemblent tous finalement, nous, les humains.
Et je pense que ça permet aussi, donc je raconte des histoires qui se passent dans des villes qui pourraient être celle-ci, mais qui pourraient être une autre, avec des réalités économiques qui pourraient être celle-ci ou une autre, mais en tout cas avec des codes compréhensibles au deuxième ou au troisième degré. Il ne faut pas tout expliquer. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien écrire des histoires où le lecteur n'est pas pris pour un imbécile, où on n'a pas besoin de lui expliquer tout. On a quand même des codes communs culturels. Et donc je pars de là pour... raconter ces histoires à notre hauteur, de nous.
Alors Pascal Fontenon, on craint toujours le pire dans la vie, dans notre monde d'aujourd'hui.
Ah, on a peur, ça c'est clair qu'on a peur, et cette peur est entretenue, et cette peur a toujours existé, évidemment. Quoi. Quand on a des enfants, on a peur qu'ils soient kidnappés, qu'ils meurent, qu'ils aient une maladie. Quand on a un conjoint, on a peur qu'il lui arrive quelque chose, voire qu'il s'en aille avec sa secrétaire, on a toujours peur. Donc il y a différents moyens de résister à cette peur. Alors soit... Bon, et les philosophes sont là, et si vous lisez le livre des violences, justement, de Volkmann, vous verrez toutes les alternatives qui sont offertes pour résister à cette peur qui est la base de la violence. Mais bon, voilà, on doit se construire une identité par rapport à ça. Soit c'est l'enfermement chez soi, soit c'est l'autodéfense, donc on s'arme, on a plein d'armes, et soit on trouve des petits moyens... pour résister, ou soit on fait des patrouilles avec ses voisins pour au cas où il y aurait un voleur. Et donc on se rassure tant qu'on est dans la voiture, mais si on voit arriver une bande de voleurs, je vous assure que les patrouilleurs, ils ont évidemment la trouille aussi, plus encore, parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
Alors Pascal Fontenon, le pire pour un écrivain de polar, c'est quoi? La page blanche?
Non, c'est pas. Page blanche pour les écrivains du noir, on sait bien que ce n'est pas un problème. Non, c'est la peur de se répéter, peut-être. C'est le doute, puisque avant, je crois que. Mais ça, c'est des questions qui traversent tout le monde de l'écriture ou de la création en général. C'est effectivement la peur d'échouer, et donc on. On parlait tout à l'heure des personnages qui sont face au vide. Un écrivain est toujours face au vide. Et en fait, on comble ce vide en se racontant des histoires, en racontant des histoires.
Donc celle-ci aujourd'hui, Has Been, parue chez Aden. Alors je vous propose, si vous êtes d'accord, Pascal Fontenon, de nous lire le prologue pour... ceux qui nous écoutent à l'instant?
Alors, le prologue est un avertissement et un peu une façon dont je vois la littérature aujourd'hui et aussi de comment se positionne cette histoire par rapport à toutes les histoires qui sont ici autour de nous. Et il y en a beaucoup. Donc, le prologue est un avertissement à propos des personnages. Dans ces temps d'incertitude où les journaux empilent les nouvelles comme du linge sale, on cherche des modèles, des exemples à suivre, des bottes d'emploi, des innocents qui nous épargneront l'épreuve de mourir dans le désert ou d'aimer sans être aimé en retour. Les personnages de romans font très bien ce boulot. Calés dans un fauteuil, on attend d'eux qu'ils aient un comportement exemplaire. On les regarde se battre, sortir du rang, aller au-devant du danger, secourir la veuve et l'orphelin, sauver leur âme, donner du sens à tout ce qu'ils font. Souvent légendaires, ces figures romanesques, hommes ou femmes, vivants ou morts, ne se fatiguent jamais à jouer les mêmes scènes, à répéter les mêmes dialogues. Ils le font pour distraire l'enfant devenu adulte, ils le font aussi pour transmettre leur expérience des grands sentiments. Si on se donne la peine de les observer, voire de les imiter, on gagnera quelques années de réflexion, on évitera les pièges les plus grossiers. Pour cela, on les admire, on les aime. Autant l'avouer sans tarder, dans cette histoire, les personnages ne seront pas à la hauteur de leur statut de héros. Aucun d'entre eux n'aura une parole à caractère philosophique digne d'être affichée dans un couloir ou dans une cuisine. Accablés par une existence semblable à la nôtre, ils ne chercheront pas à nous donner de leçons, ni à nous épater. Ils ne connaîtront pas de formule magique. Ils ne sauront pas qui nous a rassemblés sur la terre. Ils ne sauront pas non plus s'il faut attendre quelque chose, ni quand tout cela va s'arrêter. Autant de questions qui les empêcheront pourtant pas de dormir, ni de se lever vaillamment chaque matin. À ce titre, ils méritent notre respect et nos applaudissements, pas moins.
Alors, Pascal Fontenot, écrivez-vous pour distraire l'enfant devenu adulte?
Je crois que j'écris, enfin sincèrement, je n'ai jamais fait de psychanalyse sur le sujet, mais je crois que j'écris parce que j'ai compris très tôt que je ne vivrai qu'une fois. Donc voilà, donc c'est, on a un passage sur la terre, très bref, le temps passe à une allure vertigineuse. Et donc l'avantage là, c'est qu'à travers ces personnages, à travers ces mondes qui sortent de ma machine à écrire, j'ai l'impression de vivre d'autres situations, de voir comment les autres font. Bon, c'est ça, on est 6 milliards au minimum sur la terre, donc ça fait autant de destins. Et on se dit, mais comment font les autres? Dans cette situation, qu'est-ce que je ferais moi? Et c'est ça, dans cette situation, dans la situation de ces différents personnages, qu'est-ce que je ferais, moi? Donc j'essaie de voir, avec les cartes qu'on a données, parce que je pense que c'est ça aussi, le fait de vivre à Bruxelles aujourd'hui, dans cette situation, d'habiter plutôt Villevorde, ou plutôt Hall, ou plutôt Wezenbeek, ou plutôt XL. Donc tout ça détermine en fait notre existence. Le fait, par exemple, pour moi, je suis à moitié allemande, à moitié française, je vis ici à Bruxelles. Donc tout ça, alors évidemment, je peux pas avoir la même vision, par exemple, des conflits la Première et Deuxième Guerre mondiale que quelqu'un d'autre qui aurait été élevé dans un village d'Auvergne avec des parents ou des grands-parents résistants. Et c'est forcément, on a tous des destins qui sont en partie déterminés par notre lieu ou les parents. Et voilà, donc. C'est ce que je fais. Je crée des personnages qui ont un certain nombre de cartes en main et je vois comment ils se débrouillent.
Et les cartes, c'est souvent l'entourage qui les donne. Et vos personnages sont-ils mal entourés?
Ils sont mal élevés. Non, je sais. C'est l'entourage, mais c'est aussi les circonstances. Donc, quand vous vous retrouvez, par exemple, dans un carambolage et que de toute manière, et tout soudain, voilà, la voiture derrière vous prend feu, par exemple, avec 3 personnes à bord, vous arrivez à en sauver une. Ben voilà, forcément, ça déterminera tout le restant de votre vie, quoi. Donc, c'est ce genre d'incident qui m'intéresse plus que les grands conflits mondiaux, de savoir si tel diplomate intervient à tel moment, quelle est l'influence que ça aura pour notre histoire, économique. J'ai pas de référent, en fait. C'est des mondes que je connais pas. J'écris sur un monde que je connais bien, qui est celui-là. Et donc, à partir de là, je peux imaginer les réactions. On connaît nos voisins, on sait, nos voisins ou nos contemporains, on sait que dans telle situation, ils vont réagir plutôt comme ça. Et donc, c'est parce que je les connais que je peux écrire ça.
Alors, écrire la nuit, tout ce qu'on a dans la tête devient réalité. Écrivez-vous la nuit, Pascal Fontenot ?
Non, pas du tout. Non, moi, je n'ai rien de commun avec toute cette vision un peu romantique qu'on peut avoir des auteurs. Alors, des auteurs de romans policiers particulièrement qui boivent trop, qui ont des chats, qui sont mal dans leur peau, qui prennent beaucoup d'anxiolytiques, qui se lèvent à 4 heures de l'après-midi avec des lunettes noires pour aller au café d'à côté. Non. Ni avec les autres auteurs de littérature avec un grand L qui souffrent beaucoup et qui vont donc écrire leurs souffrances sur les pages blanches qu'ils étalent dans des appartements en face de la mer non plus. En fait, moi je fais ça, j'ai le sentiment que c'est un travail, c'est pas un travail ordinaire, ce n'est pas qu'un travail, parce que sinon je ferais ça à des heures plus je travaillerais 35 heures par semaine et pas 67, mais voilà, c'est un truc qui me pousse, voilà, c'est un truc qui me pousse et qui m'encadre. Et sûrement, c'est devenu presque une religion, quoi.
Une religion aujourd'hui, avec plus d'une dizaine de livres à votre actif. À un moment donné, dans un des deux livres, je ne me souviens plus dans lequel, vous dites « On a toujours du mal à interpréter les premiers signes de ce qui va être un changement radical dans la vie. » Vous, dans votre vie d'écrivain, vous vous souvenez de ces premiers signes ?
Bon, alors évidemment, maintenant, c'est très facile quand on se retourne de pouvoir les identifier. Au moment même, ça a été, et c'est toujours le cas, même si, bon, j'essaie maintenant de me rassurer en me retournant, mais ça a été toujours une succession de doutes. C'est ça, ça a toujours été une crainte larvée de doute, d'arriver. Enfin, chaque bouquin, ces deux-là n'ont pas été différents. Vous commencez quelque chose, vous avez peur de pas aller au bout, et puis vous vous sentez quand même. C'est un combat, le mot est fort, mais en tout cas, c'est un bras de fer entre vous et vous. Et donc, et s'il y a un perdant, c'est quand même toujours vous. Hein. Donc, c'est quand même un peu. Enfin, on a le sentiment un peu périlleux. Donc voilà. Et j'estime pas que c'est gagné. Donc effectivement, je me dis aujourd'hui, bon, quand même, j'en ai écrit 15. Bon, ça va. Ça va pas parce que ce qui m'intéresse moi, c'est pas ceux que j'ai écrits, c'est ceux qui vont être devant. Et donc devant. Là, j'essaie désespérément de me remettre à un horaire, mais bon, c'est vacances et enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'arrive pas à revenir à un rythme routinier. Moi, je suis quelqu'un de routinier, donc il faut que le matin à 8h, je sois à ma table de travail jusqu'à 18h30 et à 18h30, je descends faire la cuisine et puis voilà, et comme ça, et le mercredi, je vais à la piscine et comme ça, et voilà, moi, je vis très bien. Comme ça, et donc ma crainte, c'est que cette routine et qu'un jour ça s'arrête. Voilà, c'est un jour ça s'arrête.
Mais c'est ça qui fait avancer aussi les choses, la crainte d'un jour que ça arrête. En tout cas, ça ne s'arrête pas avec ces deux nouveaux livres coup de cœur ici chez Filigrane. Alors, je vais vous proposer, Pascal Fontenot, pour terminer cette rencontre, si vous êtes d'accord, de lire un extrait, cette fois-ci de Propriété privée, qui est paru chez Actes Sud, où on a rendez-vous avec Henri, un des personnages, qui finalement se retrouve un peu comme dans une essoreuse. Hein. Vous le malmenez, l'image est adéquate, non ?
C'est en tout cas le sentiment qu'on a souvent de ce. Et j'ai lu d'ailleurs dans le journal à propos des derniers événements qu'un des protagonistes de cette histoire, BHV, donc très réel, a utilisé cette formule aussi. Il avait le sentiment d'avoir passé la journée de jeudi dernier dans une machine à laver. Il ne savait pas. Alors voilà une image que j'ai pas utilisée mais qui est bien aussi. Il ne savait pas s'il en était sorti plus propre ou plus sale. Moi, j'ai pas été jusque-là, mais l'image était assez jolie. Moi, c'est juste, mais bon, c'est une image. J'utilise beaucoup des expressions qu'on a, et donc en les poussant jusqu'au bout. Mais effectivement, ce sentiment, parfois, qu'on est pris par les événements, qu'on est emporté, et que notre esprit tourne si vite qu'il ressemble à une essoreuse.
Voilà, Pascal Fontenot. Merci à vous pour terminer cet entretien, de nous lire encore un passage.
Donc dans ce livre, chaque chapitre commence par le nom de la rue où ce passage se déroule. Ici, on est à l'impasse des Frésiens pour la quatrième fois, parce que c'est un lieu très important. Calfeutré chez lui, Henri n'avait pas répondu au téléphone. Durant plusieurs heures, il n'avait pas non plus remis le nez dehors. Au contraire, il avait éprouvé le besoin de rester dans un endroit petit et lisse, comme l'était son cerveau. Henri avait choisi la chaufferie, une pièce sans fenêtre, sans horizon, sans aspérité, sans miroir, sans risque de se voir dans le rôle du pigeon qu'il était. Un pigeon humilié de se savoir pigeon. Assis sur le carrelage froid, Henri ne comprend rien. Pourquoi Robert lui a-t-il menti? D'où venait l'homme qu'ils ont jeté dans la rivière? Qui l'avait tué? Qui est le mort dans la voiture de Denis Lassalle? Henri n'a aucun indice, aucune piste. Les questions sont trop grandes pour lui. Il a le vertige. Rien ne le retient plus sur terre, pense-t-il, sauf la sonnerie du téléphone qui finalement le tire de son placard. Henri a peur de ne pas répondre, il a peur de tout. Henri? Henri, c'est toi? Réponds-moi, c'est bien toi? Hélène? Henri n'en croit pas ses oreilles. Après 6 mois d'absence, sa femme lui téléphone aujourd'hui, justement aujourd'hui. Sa voix est lointaine, la communication de mauvaise qualité. Henri, dis-moi quelque chose, Henri. Il faut absolument que... C'est trop. Pour Henri, l'arrivée d'Hélène, c'est la pièce de trop sur l'échiquier. Il raccroche. Cela ne peut pas être un hasard. Après toutes ces semaines, Henri s'était résigné. Hélène ne reviendrait plus. Romantique, il pensait qu'elle s'était suicidée. Dans sa lettre, une phrase pouvait le laisser penser « Je n'en peux plus, je lâche prise ». Il n'avait pas cherché à le vérifier, mais plusieurs fois, Henri avait imaginé les doigts de sa femme s'agrippant au bord d'un canal ou d'une falaise. La scène se déroulait sous un ciel chargé. Parfois, il y avait de la tempête. Le visage d'Hélène était couvert de pluie, mais il était serein. Malgré le vent et l'effort qu'elle faisait pour s'accrocher, ses lèvres articulaient quelques mots, des mots simples, de lassitude et d'adieu, des paroles qui effaçaient tous les reproches qu'elle avait pu lui adresser. Henri s'était fait à l'idée d'une disparition dans le brouillard. De loin, il préférait ses mystères aux explications rationnelles qui verraient Hélène choisir de vivre avec un autre homme ou choisir n'importe quelle autre vie plutôt que celle qu'elle partageait avec lui. Seul dans son pavillon, Henri avait porté le deuil d'Hélène.
Pascal Fontenot, merci d'avoir partagé ces moments ici chez Filigrane aujourd'hui.
Merci à vous.
À l'occasion de l'apparition donc de Propriété privée chez Actes Sud et Has Been qui est paru chez Aden. Un très très grand merci.